It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Journal. Un mort et un blessé grave dans une attaque au couteau à Bordeaux. Un homme a poignardé deux personnes en plein cœur de la ville ce mercredi soir. L'assaillant a été abattu par la police. Ses motivations et son identité ne sont pas encore connues. Nous ferons le point sur cette attaque dans un instant. À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, un adolescent de 15 ans a été tué à coups de couteau mardi soir, peu après 22h. La victime aurait cherché à s'interposer lors d'une altercation entre jeunes. Une personne a été interpellée et d'autres sont toujours recherchées. Les détails de ce drame dans ce journal. C'était un vote très attendu. Ce mercredi à Bruxelles, le Parlement européen a adopté la vaste réforme de la politique migratoire. Alors que contient ce texte et surtout quel impact aura cette loi sur l'arrivée de migrants sur notre territoire ? Nous vous expliquerons tout dans cette édition. Et puis on reviendra bien sûr dans ce journal sur le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG. Les Parisiens qui se sont inclinés 3-2, ça s'annonce déjà très compliqué pour le match retour. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. À la une donc, cette attaque mortelle en plein cœur de Bordeaux. Il était à peine 20h ce mercredi soir quand un homme a poignardé deux personnes sur les quais de la ville. L'une d'entre elles est donc décédée, l'autre a été grièvement blessée. L'assaillant a tenté de prendre la fuite avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Les motivations de l'agresseur et son identité ne sont pas encore connues. Marie-Victoire Dieudonné.
Il n'est pas encore 20h quand Bordeaux est frappé par une attaque au couteau. Un homme vient de poignarder au moins deux personnes de 25 et de 37 ans, dont une mortellement, dans le secteur du miroir d'eau sur les quais. Alors qu'il tentait de prendre la fuite en direction du pont de Pierre, l'assaillant a croisé la route des policiers qui l'abattent. L'identité et le motif de l'agresseur sont encore inconnus. Selon une source policière, il n'y a aucune connotation terroriste pour le moment et c'est l'hypothèse d'une rixe qui est actuellement privilégiée. D'après nos informations, il y aurait eu un conflit entre l'assaillant et un groupe d'hommes en train de consommer de l'alcool. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans ce lieu qui abrite chaque soir de nombreux marginaux. En fin de soirée, la seconde victime de l'assaillant n'est plus considérée en état d'urgence absolue. L'enquête est en cours.
Ce mardi, le ministre de l'Intérieur a dévoilé les mesures de sécurité qui seront mises en place dans la capitale lors des Jeux Olympiques. Et dans certains quartiers, il faudra se munir d'un QR code pour rentrer chez soi ou alors encore aller au restaurant. Alors concrètement, comment cela va-t-il fonctionner? Quels quartiers de Paris seront concernés par cette mesure? Les explications détaillées avec Tancrède Guillotel.
Les quais de Seine, l'île de la Cité ou même l'île Saint-Louis au cœur de Paris, ces lieux emblématiques de la capitale sont désormais situés dans le périmètre de sécurité annoncé pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pendant une semaine avant l'événement, prévu le 26 juillet au soir, les habitants et ceux qui travaillent sur place auront besoin d'un QR code pour accéder à la zone. Une mesure qui interroge cet habitant.
Je pense qu'il faudrait laisser un pont au moins accessible pour que les gens puissent aller et venir comme ils veulent. QR code, c'est un peu la Gestapo. Retour au Covid.
Au total, près de 20 000 personnes sont concernées. Pour obtenir le précieux sésame, elles devront s'inscrire sur une plateforme en ligne qui ouvrira le 10 mai. Une jauge très limitée qui laisse les commerces en suspens.
C'est sûr que ça ne va pas nous faciliter les affaires. C'est un fait. Pour nous, pour les commerçants, là encore, tout dépend du commerce, franchement. Les restaurateurs, ils peuvent par exemple avoir des réservations, si jamais il fallait un but précis pour aller sur l'île. Moi, comment voulez-vous que j'ai des gens... Personne ne va réserver pour venir chez moi. Donc, est-ce que j'ai intérêt à fermer? Est-ce que je dois rester ouverte? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien.
Les spectateurs détenteurs de billets pour la cérémonie d'ouverture seront cependant exemptés de ce QR code. Mais l'accès motorisé à la zone sera lui interdit.
Et puis à l'approche des JO, la CGT a déposé des préavis de grève dans la fonction publique. Les dates s'étendent du 15 avril au 15 septembre prochain, ce qui pourrait donc perturber la tenue des événements sportifs. Une annonce qui intervient alors que le Sénat vient tout juste de voter une proposition de loi pour justement limiter les grèves. Alors quel impact ces grèves pourraient-elles avoir sur la compétition et surtout que réclament les syndicats? Réponse avec ce sujet de Maxime Lavandier.
Pas de trêve olympique pour la CGT. Ce mercredi, le syndicat a déposé des préavis de grève dans les trois branches de la fonction publique, comprises entre le 15 avril et le 15 septembre. Des dates qui coïncident avec celles des Jeux olympiques et paralympiques, qui débuteront le 26 juillet jusqu'au 8 septembre. Dans un communiqué, le premier syndicat de la fonction publique, qui avait déjà annoncé son intention d'appeler à la grève lors de l'événement, a fait part de ses revendications. Il demande notamment des recrutements pérennes, des compensations salariales au titre des contraintes professionnelles générées par les Jeux, ainsi que des droits au congé, au télétravail choisi et à la déconnexion. Ce préavis rejoint celui de Force ouvrière. Début mars, le syndicat avait déposé un préavis de grève qui s'étend lui aussi sur la période des Jeux olympiques. Une annonce qui intervient au lendemain de l'adoption au Sénat d'un texte limitant les grèves dans les transports pendant certaines périodes, y compris les grands événements. Le gouvernement a mis son veto sur ce texte, ce qui complique son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
On en vient à ce nouveau drame à Romans-sur-Isère. Un adolescent de 15 ans a été tué à coups de couteau mardi soir, peu après 22h, dans un quartier très sensible de la ville. La victime aurait cherché à s'interposer dans une altercation entre jeunes. Une personne a été interpellée et d'autres sont toujours activement recherchées. Les derniers éléments de cette enquête avec Augustin Donadio et Tanguyam.
Il est aux alentours de 22h15 ce mardi soir, lorsque des policiers de Romans-sur-Isère sont appelés pour une bagarre dans la cité de la Monnaie. Arrivés sur place, ils découvrent un jeune homme de 15 ans, poignardé, gisant au sol, en arrêt cardio-respiratoire.
Il y avait environ une centaine de personnes autour donc, de ce jeune homme, blessé à l'arme blanche. Les pompiers sont intervenus, le SMUR est intervenu. Cette personne a été transportée au centre hospitalier de Romans-sur-Isère et il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.
Règlement de compte, RICS, l'enquête tente de déterminer les contours de ce drame. Mais une chose est sûre, selon le procureur, la victime n'était qu'un simple témoin qui a voulu s'interposer.
Les premières informations recueillies sur place évoquaient l'existence d'une altercation au cours de laquelle le mineur défunt, témoin au départ de l'altercation, s'était interposé et avait alors reçu un coup de couteau.
Ce quartier, les forces de l'ordre le connaissent bien, mais ils déplorent un manque cruel d'effectifs, notamment la nuit.
Aucun territoire ne doit échapper à la République. Et ce que je vois, c'est qu'à Romans-sur-Isère, le quartier de la Monnaie est devenu une véritable zone de non-droit. On est une patrouille de 4 fonctionnaires. Ça fait un flic pour 11 700 habitants. Voilà.
Un individu en lien avec les suspects a été interpellé ce mercredi. Les autres protagonistes sont toujours activement recherchés par les enquêteurs.
Retour sur cette agression à l'hôpital de Challans en Vendée. L'homme soupçonné d'avoir agressé un brancardier a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès qui aura lieu le 26 avril. Samedi, il accompagnait son père et son cousin aux urgences avant donc de s'en prendre violemment à un membre du personnel. L'homme dit avoir agi sous l'emprise de l'alcool. Jean-Michel Decazes et Augustin Donadieu.
L'auteur du coup donné au brancardier de Challans a fait ses excuses auprès de la victime et de sa famille. Le père de l'agresseur, brûlé par un choc électrique, raison pour laquelle il se rendait aux urgences, explique que son fils alcoolisé a pété les plombs. La prise en charge étant trop longue à son goût.
J'arrivais à l'hôpital, on a attendu 45 minutes, on les a suppliés à l'hôpital de nous prendre, de nous donner un petit cachet pour nous soulager. Et ils nous ont dit, si vous n'êtes pas content de rester ici, Salmanouche, vous avez qu'à à La Roche-sur-Lyon ou à Nantes.
Le directeur de l'hôpital de Challans réfute cette version. Tout a été filmé, dit-il.
Les bandes de vidéo ont été transmises à la gendarmerie. Donc l'enquête est en cours, la justice va se prononcer. Ce que je peux vous dire, c'est que les patients étaient bien pris en charge à l'intérieur. J'ai eu le témoignage du médecin qui disait qu'il était en train de proposer une prise en charge, voire... Voilà, la morphine pour les calmer. Et c'est à ce moment-là qu'à l'extérieur, l'agression a eu lieu.
L'audience en comparution immédiate a été reportée au 26 avril pour permettre au prévenu de préparer sa défense. L'auteur de l'agression a été placé en détention provisoire.
Jonathan Daval de retour devant la justice. Il est cette fois-ci jugé pour dénonciation calomnieuse. Pendant l'enquête sur le meurtre de sa femme, il avait dans un premier temps avoué les faits avant de se rétracter et d'accuser son beau-frère. Le procureur de la République a d'ailleurs requis la relaxe pour Jonathan Daval dans ce procès. Le jugement a été mis en délibéré au 24 mai au palais de justice de Besançon. Les précisions de Célia Barotte.
Le procureur de la République de Besançon a requis la relaxe pour Jonathan Daval. Il a expliqué, je cite, « Jonathan Daval est éminemment condamnable sur le plan moral, mais la loi et la jurisprudence permettent à une personne poursuivie de mentir, même si ça peut paraître difficile pour la société. » Ces réquisitions ont étonné, elles ont déçu les proches d'Alexia. Je vous propose d'écouter, en sortie d'audience, sa sœur Stéphanie.
Ce qu'on aimerait, c'est être reconnu comme victime de ce monsieur. À travers tout ce qu'il a fait, cette dénonciation calomnieuse, on est 4 victimes, et même plus, toute la famille Fouillot élargie, nous sommes des victimes. Ce qu'on aimerait que la justice dise, c'est « oui, c'est vrai, vous avez été victime de ce monsieur, vous aussi ».
Présente dans le public, la mère de Jonathan Daval dit que tout s'est très bien passé, que son fils a assumé. Elle espère qu'il s'agit là du dernier épisode de l'affaire Daval.
Le choc à Avallon dans l'Yonne. La maire de la ville a été mise en examen dans une enquête pour trafic de stupéfiants et placée en détention provisoire. Dimanche, 70 kilos de cannabis et près d'un kilo de cocaïne ont été découverts à son domicile. 5 autres suspects ont été incarcérés dans cette enquête. La drogue, un fléau qui s'étend partout sur le territoire, jusque là limité à la région parisienne. Eh bien, la consommation de crack prend de l'ampleur dans l'ouest de la France. Cette drogue est fabriquée à partir de cocaïne, elle est très addictive et bon marché, ce qui explique son expansion dans les grandes villes du pays. Le reportage à Rennes, Mickaël Chailloux, Jean-Michel Decazes.
Quartier du Blône à Rennes, le square de Galicie est suffisamment étendu et arboré entre 3 grandes tours pour que le deal se fasse en toute discrétion dans les halls ou à l'extérieur. C'est l'unique lieu de vente de crack à Rennes, en place depuis bientôt un an.
Il faut savoir que le point de deal, il ne reste pas fixe, il reste vraiment, il se déplace en fonction de la présence policière ou non. On a à peu près au moins 60 clients par jour, les chouffes changent régulièrement et voilà, ça marche très bien.
L'appréhension des habitants, c'est surtout de rencontrer des clients en manque de cette nouvelle drogue très addictive.
J'ai constaté en effet qu'il y a des personnes un petit peu égarées, on se demande ce qu'elles font. Mais moi, je préfère fuir le regard.
Les tarifs sont affichés sur la palissade du chantier mitoyen, une substance beaucoup plus accessible.
On dit que c'est la drogue du pauvre, 60 à 70 euros le gramme de coke. Là, on a 10 euros la dose. On a tout type de clients. On a aussi bien de l'étudiant au cadre et on a même des mamans en landau qui viennent chercher leur dose.
Rennes n'est pas la seule ville de l'Ouest concernée. Nantes, Alençon, Le Mans ou Lorient ont vu s'installer des dealers de crack ces derniers mois.
C'est un débat très sensible qui n'en finit plus de diviser, celui sur la fin de vie ou de l'aide active à mourir. Ce mercredi, un projet de loi a été présenté en Conseil des ministres. Il s'agit d'un texte en réponse à des souffrances inapaisables. C'est ce qu'a notamment affirmé la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, ce mercredi.
C'est un modèle français de la fin de vie, comme vient de le dire Prisca, une réponse éthique à des besoins d'accompagnement des malades et également à des souffrances qui sont des souffrances inapaisables. Et vraiment, c'est un projet de solidarité vis-à-vis de personnes qui sont vulnérables. Elles sont vulnérables parce qu'elles sont malades, elles sont vulnérables parce qu'elles souffrent. Et l'idée, c'est de créer un espace. Cet espace, ça n'est pas un droit nouveau, ça n'est pas non plus une liberté, mais c'est incontestablement un espace qui permet de répondre. C'est un équilibre entre le renforcement et l'accompagnement des patients et de leur entourage. C'est un équilibre entre le respect et l'autonomie de la personne.
C'était un vote très attendu ce mercredi à Bruxelles. Après 4 ans de négociations, le Parlement européen a adopté la vaste réforme de la politique migratoire. Elle entend durcir les contrôles des arrivées aux frontières et mettre en place un système de solidarité entre les États membres. Alors que contient ce texte et surtout qu'est-ce qui va changer sur notre territoire? Les réponses avec Mickaël Dos Santos cette nuit, regardez.
Malgré les cris de manifestants opposés au texte, le pacte sur la migration et l'asile a été adopté par les députés européens. Une décision saluée par Ursula von der Leyen.
Après des années de travail intense, le pacte sur l'immigration et l'asile devient une réalité. C'est un énorme pas pour l'Europe.
Ce pacte contient 3 axes majeurs, des contrôles renforcés aux frontières. Les dossiers devront être traités dans un délai de 5 jours. Les procédures d'identification et les relevés d'empreintes vont concerner tous les migrants âgés au moins de 6 ans. La coopération avec les pays d'origine et de transit va également être renforcée. Ceux qui accepteront de récupérer leurs ressortissants seront récompensés avec des visas pour la migration légale.
Enfin, un nouveau mécanisme de solidarité va être mis en place. Les pays membres vont devoir accepter la relocalisation de 30 000 migrants en moyenne chaque année. À défaut, ils devront mettre à disposition du personnel une aide logistique ou encore payer une amende de 20 000 euros par migrant. En cas de crise migratoire, type Lampedusa, le mécanisme de solidarité sera plus rapidement déclenché, les procédures d'examen accélérées et la durée de rétention aux frontières prolongée si nécessaire. Ce pacte migration et asile entrera en vigueur au plus tard en 2026.
L'actualité au Proche-Orient, Etzal confirme avoir tué 3 fils du chef du Hamas dans une frappe dans la bande de Gaza. Les victimes sont qualifiées d'agents militaires du mouvement islamiste palestinien par l'armée israélienne. Et de son côté, le chef du Hamas promet que cette attaque ne fera pas plier son mouvement. Et enfin, un mot de la guerre en Ukraine. Dans ce journal, le secrétaire général de l'OTAN affirme que l'Ukraine a immédiatement besoin de systèmes de défense antiaérienne, dans le but bien sûr de contrer les bombardements russes qui sont très intenses ces derniers jours. L'armée de Volodymyr Zelensky ne peut pas attendre, c'est ce qu'a affirmé ce mercredi Jens Stoltenberg.
Les retards de financement ont chaque jour des conséquences directes sur le terrain. Les retards dans la livraison des défenses aériennes permettent aux missiles russes de toucher davantage de cibles. Les retards dans la livraison des munitions permettent à la Russie de se maintenir sur la ligne de front. L'Ukraine ne peut tout simplement pas attendre. Elle a besoin de défenses aériennes, de munitions et d'aide dès maintenant.
Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, votre journal des sports. On va bien sûr revenir en longueur sur ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Et la défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face au FC Barcelone. Et la victoire de l'Atlético de Madrid face à Dortmund qui prend donc une option pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Vous restez donc bien avec nous. On en parle dans un instant, votre journal des sports. Et on démarre ce journal des sports avec les quarts de finale aller donc de la Ligue des Champions et le scénario cauchemar pour le Paris Saint-Germain. Battu à la maison par le FC Barcelone, les partenaires de Kylian Mbappé se sont donc inclinés 3-2. Il faudra impérativement s'imposer au match retour mardi prochain en Catalogne. Récit de la rencontre Raphaël Redon.
Guerre des étoiles au Parc des Princes. PSG Barcelone, acte 17 dans l'histoire. Un soir pour briller. Sous les yeux de Ronaldinho, légende des deux clubs, Nuno Mendes fait d'abord danser la défense barcelonaise, sans succès, avant de sauver celle du PSG. Mais Paris continue de subir et se fait logiquement punir.
Pied pour Lewandowski, attention deuxième Rafinha.
Premier but de sa carrière en Ligue des Champions, le Barça mène 1-0 à la pause. Enrique change le visage de Paris, Barcola remplace Asensio, Hernandez passe à droite, conséquence immédiate.
Ça revient vers Dembélé, la fin de frappe, le crochet.
Crochet du droit, tir du gauche, les deux pieds de Dembélé rallument la lumière. 2 minutes plus tard, Vitinha fait chavirer le parc.
Le petit ballon, magnifique pour Vitinha. Oh, magnifique.
Barcelone semble proche du chaos quand Barcola touche la transversale. Mais à l'image d'hier, en Ligue des Champions, il ne faut jurer de rien. Ouverture lumineuse de Pedri, doublé de Rafinha, de partout, ce match devient fou. Dembélé se voit ensuite héros du match, mais sa frappe heurte le poteau. C'est finalement le Barça qui a le dernier mot.
Gundogan travaille encore bien son ballon.
Christensen, du bout du crâne, trompe Donnarumma et assomme le PSG. Le Barça s'impose au bout du suspense 3-2 et prend une option sur les demi-finales. Paris et Mbappé devront tout renverser en Catalogne dans une semaine.
Et côté parisien, évidemment, la déception est là, mais pas la résignation, bien au contraire. On va écouter le capitaine du PSG, Marquinhos, au coup de sifflet final.
On a eu des difficultés parce que c'est normal, c'est une équipe de très haut niveau de l'autre côté. Personne n'attendait un match facile. Ceux qui attendaient un match facile, je crois qu'ils ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. Alors, c'est un match qui est, ça a été un peu trop ouvert. On connaît notre force, on est parti à Real Sociedad et on a cherché ce résultat. Il faut y aller là-bas et faire la même, il faut tout donner. Parce qu'il n'y a pas de choix, il faut aller là-bas, il faut chercher cette victoire.
Et dans l'autre quart de finale de la soirée, l'Atlético de Madrid a dominé Dortmund. Les Colchoneros ont fait la course en tête toute la rencontre grâce à Rodrigo De Paul dès la 4e minute de jeu. Antoine Griezmann, pas buteur, mais à l'offrande, une demi-heure plus tard pour Samuel Lino. Une avance confortable réduite par Sébastien Haller en toute fin de match. Le score final donc 2-1 pour les Madrilènes qui prennent une option avant le retour. Ça sera mardi prochain donc face à Dortmund. Et on n'en a pas terminé avec le football puisque ce jeudi ce sera au tour des quarts de finale aller de la Ligue Europa et de l'Olympique de Marseille qui se déplace à Lisbonne sur la pelouse de Benfica. Un choc entre anciens finalistes qui sera à suivre sur nos antennes dès 21h sur Canal Plus Foot. Côté olympien, pas d'excès de confiance. On ne sous-estime pas le club portugais. Écoutez.
Il faut savoir se transcender dans une compétition comme ça. C'est pas tous les ans qu'on joue un quart de finale de Coupe d'Europe. On a affaire à un club historique comme nous. On sait qu'on a fauté à Lille où on a fait des erreurs individuelles. À ce niveau de la compétition et contre de tels adversaires, ça ne passerait pas.
Et puis un petit mot tennis pour terminer ce journal des sports. Et Hugo Humbert surpuissant à Monte-Carlo. Le Messin a balayé en deux petits sets le chinois Zhang 6-1-6-4. Un succès qui lui permet de rejoindre les huitièmes de finale. C'est une première en Masters Mills pour lui cette saison. Après deux échecs au troisième tour à Indian Wells et Miami. Prochain rendez-vous ce jeudi pour le numéro 1 tricolore, ça sera face à Lorenzo Sonego pour une place en quart de finale. Allez-vous rester bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Un mort et un blessé grave dans une attaque au couteau à Bordeaux, un homme a poignardé deux personnes en plein cœur de la ville ce mercredi soir. L'assaillant a été abattu par la police, ses motivations et son identité ne sont pas encore connues. On vient donc sur cette actualité dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne et je vous retrouve donc dans un instant pour une prochaine édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.